Question d'Islam par Al-Benshir. Cela fait un moment que nous parlons de réforme de la pensée islamique, mais il n'est de réforme que théologique. C'est ce que l'essayiste Malik Bezou veut nous le faire savoir, à juste raison, si je puis me permettre. Et Malik Bezou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, intellectuel engagé, vous travaillez sur la réforme de l'islam. L'islam est un vocable qui embrasse beaucoup de choses et vous dites qu'il faut descendre dans l'arène théologique, sinon cela sert à rien de pérorer, de gloser sur la nécessité de la réforme de la pensée islamique. Il n'est de pensée que théologique, peut-être avec d'autres servantes, pour parler comme les médiévistes, que seront la philosophie ou les sciences de l'homme et de la société. Vous avez fait savoir cela dans un ouvrage intitulé « Ils ont trahi Allah ». Et première question, Malik Bezou, si nous parlons français, nous parlons de Dieu. Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité, ce n'est pas un nom propre.
En effet, il aurait été effectivement possible et concevable d'utiliser, d'écrire « Ils ont trahi Dieu ». La difficulté, c'est qu'effectivement, trahir Dieu, pour l'auditeur, en tout cas pour la personne qui prendrait le livre en main, ça ne lui parlerait pas forcément. Et ça, c'est l'avantage, effectivement, d'utiliser le terme Allah, parle directement au lecteur. On sait de quoi on va. Les thèmes qui seront abordés dans le livre paraissent évidents à la lecture du titre. Et donc, en définitive, il fallait faire un choix. Et il est vrai que moi, j'avais pensé au début, comme titre pour l'ouvrage, Mahomet était de gauche, ou Allah se meurt.
Vous-même parliez aussi d'Allah.
Oui. Mahomet était de gauche, c'est vraiment l'un des premiers titres. L'idée, c'était d'expliquer à travers cet ouvrage que l'islam est une religion, l'essence de la religion musulmane est progressiste, et que le prophète Mahomet, dans son contexte était un homme de progrès. Il cherchait à améliorer la situation en apportant plus de justice, d'équité. En ce sens, il était un progressiste par rapport aux tenants du conservatisme mécois, qui était pour le maintien des privilèges, les traitements très très inégalitaires des femmes, etc. Donc le prophète était un véritable réformateur, un véritable révolutionnaire. Et c'est en ce sens que j'avais utilisé ce titre, Mahomet était de gauche, mais il a été considéré que peut-être ce titre pourrait être mal perçu, voire même choqué.
Vu l'état actuel de la gauche, où certains parlent d'une collusion entre l'islamisme politique et la gauche.
Oui, alors on pourrait aussi. Alors c'est une excellente remarque parce que là, alors je ne sais pas si tu parles de l'islamo-gauchisme ou en tout cas effectivement ce titre pouvait prêter à confusion.
Même l'islamo-gauchisme pose problème. Qu'il y ait une collusion entre la gauche et l'islamisme, c'est vrai. Mais parler d'islamo-gauchisme, comme on parle d'islamo-délinquance, comme on parle d'islamopathie, ça je l'ai lu aussi dans votre ouvrage, c'est-à-dire que le préfixe islamo à autre chose est toujours avec un corollaire d'épouvante et quelque chose de déprécié. Il vaut mieux peut-être perdre 2 secondes ou 3 dans une définition rigoureuse que d'avoir ces mots à l'emporte-pièce. Mais je ne le dis pas pour vous, Malik Bezou, en aucun cas et d'aucune manière je ne permettrai, mais je le dis sur ce foisonnement dans le champ sémantique dans lequel il y a islamo.
Tout à fait, totalement d'accord avec vous. On pourrait rajouter les termes islamo-fascisme, islamo-nazisme, etc. C'est fatigant, ça ne correspond à aucune réalité, c'est extrêmement simpliste, réducteur. Si on pense par exemple au fascisme, le fascisme est une réalité historique qui est apparue dans un contexte européen particulier, etc. Associer forcément le terme islam, enfin tordre le cou à l'histoire, aux événements, il y a une dimension clairement dépréciative et un objectif dépréciatif dans cette approche, dans ces vocables, dans l'usage en tout cas de ces vocabulaires qui me gêne profondément. Bon, donc Mahomet était de gauche, c'était un titre qui pouvait poser problème. Donc il a été écarté. Allah se meurt était un titre qui moi me plaisait, parce que je parle de Nietzsche dans le livre et effectivement la troisième partie de l'ouvrage dit explicitement qu'Allah est en train de mourir. Alors c'est une figure de style, c'est une vue de l'esprit, bien évidemment, on l'aura compris. Mais Allah se meurt pouvait là aussi peut-être être mal perçu dans un contexte marqué.
Nous allons accepter cette affaire d'Allah, même si les chrétiens dits d'Orient, en tout cas les chrétiens arabes, quand ils célèbrent l'Eucharistie, s'adressent à Allah. Et dans l'imaginaire occidental, quand on parle d'Allah, c'est quasi exclusivement islamique. Alors, nous partons de l'idée qu'il vaut mieux une erreur connue qu'une quelque chose de juste, mais qui reste très peu connu. Bon, votre idée première, Malik Bezou, c'est on a beau parler de réforme, mais tant qu'on ne s'attaque pas aux considérations théologiques, on ne sortira pas de l'ornière. Donc, il n'est de réforme que théologique.
On est totalement d'accord. Effectivement, on peut parler des heures durant, dénoncer, crier, s'agiter sur ces problématiques qui sont réelles. Mais tant, effectivement, que l'on ne prendra pas le problème dans son essence, et pour ce faire, il faut passer par un travail théologique, on n'arrivera à rien. Condamner telle ou telle posture intégriste, fondamentaliste, oui, c'est nécessaire, mais au-delà de cette approche purement incantatoire et moralisante, on fait quoi ?
Oui, et le discours imprécatoire non plus ne règle rien. Et alors, quelles sont les autres dimensions ? C'est-à-dire la dimension sociale, politique, économique, pour améliorer la situation des populations, et notamment des peuples musulmans. Il y a aussi la dimension de démocratie et de liberté, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. D'aucuns nous parlent même d'une dimension psychanalytique, presque psychanalytique globale. Tout cela peut avoir une pertinence. Mais, tout comme vous, et si vous permettez, je consonne, il faut régler définitivement, si je puis dire, la question théologique et la réformer fondamentalement.
C'est exactement l'objectif de ce livre. Étant donné que je suis scientifique de formation, j'ai voulu voir, en effet, quels étaient, regarder les jurisprudences développées par les théologiens de l'islam classique, essentiellement sunnites, mais c'est vrai aussi pour le schisme, et puis les confronter aux données scientifiques contemporaines, la biologie, la génétique, les neurosciences, la psychologie sociale, et voir si effectivement ça colle ou pas. Et lorsqu'on analyse certaines jurisprudences traitant de l'homosexualité, de la masturbation, de l'apostasie, du blasphème, à l'aune donc de ces données
de
scientifiques...
De l'athéisme.
Tout à fait. On se rend compte que l'incongruité est totale, l'inconsistance est absolue, et... Alors, on peut le comprendre, parce qu'effectivement, ces théologiens du 8e, 9e, 10e, 11e, 12e siècle n'avaient pas du tout accès à ces données-là. Mais le drame aujourd'hui de l'islam classique contemporain, c'est qu'on a sacralisé des jurisprudences que je considère totalement désuètes, anachroniques et plus graves, portant atteinte à l'essence même de la religion musulmane, parce qu'elles sont porteuses d'injustices qui doivent être traitées. Et pour ce faire, effectivement, ce travail théologique et scientifique, parce qu'effectivement, la biologie est présente dans ce bouquin, la psychologie sociale, les neurosciences, et le constat est sans appel. Nos théologiens de l'islam classique se trompent, en partie sur les sujets abordés que sont l'homosexualité, la masturbation, l'athéisme, l'apostasie, etc. Et à mon sens, ce livre que je crois important, et n'y voyez là aucune prétention de ma part, peut contribuer à apporter un éclairage sur cette nécessaire, sur cette obligation impérieuse de réformer la religion musulmane.
Oui, mais vous dites que c'est grave parce qu'on a sacralisé une œuvre humaine. J'ai envie de rajouter ou de surenchérir dans la gravité des choses, c'est que non seulement on a sacralisé une œuvre humaine et l'œuvre humaine est forcément limitée, elle est perfectible. Vous dites vous-même que ces théologiens se sont trompés, ou du moins ils ne pouvaient accéder qu'au savoir qui leur était donné pour leur époque, et les temps ayant évolué, donc de fait ils ne pouvaient pas savoir. Mais plus grave encore, c'est que même par rapport à certaines dispositions de nos jours, il y a une régression.
Tout à fait. Tout à fait. Si par exemple on prend le discours que j'ai entendu il y a pas très longtemps, émanant du recteur de l'université Al-Azhar, où il explique qu'un homme peut frapper son épouse à condition de ne pas lui briser les os. Ce propos que j'ai entendu, que j'ai fait traduire, etc., pour être certain que j'ai bien compris le sens de la phrase, dans le contexte effectivement du propos donc de ce recteur, qui est quand même le représentant de l'islam sunnite et pas des moindres. Bah, face à ça, on se dit, on est estomaqué. Il y a un vrai souci. D'autant plus que un ami, enfin une personne que je connais et qui n'est pas en réalité mon ami, m'expliquait, en tout cas s'abritait derrière le point de vue de ce recteur pour dire qu'il était justifié qu'il frappe son épouse, parce qu'effectivement il est violent, il a des comportements.
En cas d'adultère ou dans n'importe quelle
non,
situation.
En cas de non-soumission, de désobéissance manifeste. Et
mais rien ne le justifie.
Tout à fait. Et là, nous sommes dans ce que j'appelle moi dans le livre la gynépathie. Alors, j'ai parfois effectivement cette tendance à inventer des mots. Alors, gynépathie, gynéfemme, pathie, rapport pathologique à la femme. Et je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui s'apparente.
Certains néologismes illustrent une véritable pensée. Donc, vous avez raison de parler de gynépathie.
Pareil pour le concept d'islamopathie que j'utilise dans ce livre et qui pour moi est un rapport, comme son nom l'indique, pathologique à la transcendance, à Dieu, aux sources canoniques de l'islam et à la modernité. Et tout ça, effectivement, s'accumule, tel un monceau de difficultés. Et on s'en sort pas. Même s'il faut toujours garder à l'esprit que l'immense majorité des musulmanes et des musulmans ont un rapport apaisé, plus ou moins distancié à la transcendance. Mais il y a des marges dans cette population d'individus qui ont des comportements extrêmes, islamopathes, etc. Et là, ça pose problème. Donc, réformer. Et puis surtout, bien montrer, c'est le but de l'ouvrage, que ces jurisprudences-là ne tiennent plus la route aujourd'hui, clairement.
Oui. De toute façon, au niveau du droit, de la production de la norme juridique, on n'a plus besoin, et surtout dans nos sociétés sécularisées et dans des États laïcs, il n'y a aucune raison de se référer à la révélation coranique pour produire du droit. D'ailleurs, lit-on, les dispositions prescriptives sont très peu présentes dans la révélation, il n'y a aucune raison d'en faire une focalisation, et en plus il faut que la production du droit soit une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes et des femmes bien entendu.
Oui, tout à fait. Il reste cependant qu'il y a quand même une réalité, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, fondamentaliste, intégriste, prégnante dans beaucoup de pays.
Dans les sociétés musulmanes.
On parle bien des pays arabo-musulmans, dans les sociétés arabo-musulmanes et puis dans les sociétés musulmanes en général. C'est vrai pour les sociétés asiatiques, c'est vrai en Iran, etc. Et vous parlez effectivement de droit positif. On a vu par exemple l'évolution de la Tunisie qui a légiféré sur le mariage permettant aux musulmanes d'épouser un non-musulman, sur la question de l'héritage. Et puis là, on a vu se dresser une fois encore l'université Al-Azhar, qui, à mon sens, est un bastion du conservatisme islamique, et protester en disant que ces évolutions-là ne sont pas souhaitables et sont même condamnables. Donc on a une résistance extrêmement forte aujourd'hui de ce conservatisme islamique. Mais, et à mon sens, et c'est là où je peux être un des éléments forts du livre, cette résistance est symptomatique d'une peur profonde. Cette résistance, alors je cite Bossuet, il faut revenir, histoire de comparer un peu les choses, parce qu'il faut, on compare toujours en réalité des situations, des contextes. Nous sommes au deuxième moitié du XVIIe siècle, Bossuet est très inquiet. Il sait que il y a une avancée de la pensée matérialiste, athéiste. Il y a des gens comme Spinoza, Malebranche, Fontenelle, Pierre Bel, qui est un protestant humaniste, qui n'est pas clairement parlé d'un athée, mais qui a une pensée hétérodoxe qui pose problème pour Bossuet, qui est la figure emblématique de la société.
L'aigle de Meaux.
Oui, bah, c'est exactement ça. Il est le précepteur du dauphin, donc et il voit cette montée, certes, contenue encore, de l'athéisme en France et en Europe, et il a ces mots, tel un visionnaire. « Je vois s'élever au-dessus du ciel de l'Église une nuée dense, épaisse et noire que l'on aura bien de la peine à dissiper. » Là, on est peut-être en 1665-66, il sait, il a compris que son monde va être englouti. Il le sent, il y a une inquiétude, il est désarmé. Il est très fort pour lutter contre, pour faire des débats théologiques avec les protestants, avec Fénelon, avec les mystiques, etc. Par contre, il est totalement désarçonné lorsqu'il s'agit de combattre l'athéisme. Et il sait que ce fléau, entre guillemets, de l'athéisme va balayer un jour son monde théocentré, etc., traditionnel. Cette peur-là, elle existe dans le monde musulman aujourd'hui. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le monde musulman, une partie du monde musulman, vit dans cette peur-là, inconsciemment ou pas. Elle génère du repli, de la fermeture théologique, du fondamentalisme. Et c'est d'autant plus vrai parce qu'il y a cette peur de la modernité occidentale qui frappe à la porte, qui est déjà là, qui a pénétré le monde musulman. Mais ce qui est plus aggravant, je dirais, c'est que cette modernité est exogène au monde musulman. Parce que la modernité, comme on l'entend, elle est née en Europe. Freud, Marx, etc., l'athéisme, le positivisme, le scientisme, etc., et la laïcité, la sécularisation, toutes ces choses-là sont nées... alors Spinoza, Pierre Bel, Fontenelle, etc., ont contribué, ils ont ouvert, préparé les Lumières, etc., et puis les Lumières vont, elles, générer... produire une société qui peu à peu va prendre congé de Dieu. Il y aura des résistances, les conservateurs, les catholiques en Europe, etc. Mais c'est peine perdue. Hein. Il y a une transition de phase, c'est la fameuse crise de la conscience européenne, parfaitement décrite par Paul Azar, de mémoire, dans un bouquin qui sort dans les années 1930, il me semble.
35, de mémoire.
Bon.
Et ça parle de 1680 à 1715. Comment on a basculé de Bossuet à Voltaire, pour faire simple.
C'est exactement ça. D'ailleurs, Paul Azar utilise cette phrase-là. Avant, les Français pensaient tous comme Bossuet. Tout d'un coup, ils se mettent à penser tous comme Voltaire. Il y a une transition de phase. Et effectivement, la modernité va émerger. Modernité entre guillemets, modernité européenne, eurocentrée. Bon, le monde islamique, d'ailleurs j'en avais fait une note pour la Fondapol qui s'appelle « Crise de la conscience arabo-musulmane », où dans laquelle j'explique que le monde arabo-musulman, si on se concentre sur cette portion du monde islamique, est toujours dans cette crise. Il est dans une crise de sa conscience. Et cette crise-là, produit de l'intégrisme, du fondamentalisme. Et par conséquent, l'intégrisme et le fondamentalisme ne sont en réalité que des facettes ou des symptômes de la maladie. Le mal est bien plus profond.
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Nous parlons de la nécessité impérieuse de réformer sur le plan théologique les fondements même de la tradition religieuse islamique. Dans cette deuxième partie, nous verrons ensemble, après avoir vu avec Malik Bezouf, cet intellectuel engagé, comment guérir donc de cette islamopathie, de cette pathologie, de cette maladie même. J'aurais une question pour vous, Malik Bezouf. D'aucuns disent il n'y a aucune raison de garder le déphasage, un peu ce qui a pu se passer en Europe, dans le monde dit arabo-islamique, parce que même la sémantique a son importance, puisque nous sommes dans une ère de mondialisation, et puis il y a eu tout de même des tentatives lors de cette fameuse Nahda, renaissance, réveil, résurrection, je ne sais plus comment on traduit le mot. Et d'autres disent non, il y a eu même des cas aggravants, notamment avec ce qui est finalement une secte, le wahhabisme, du XVIIIe siècle, le cas encore déroutant et aggravant de la confrérie des frères musulmans, et puis la révolution de Khomeini. Tout cela a encore aggravé la situation.
Eh bien, écoutez, je dirais qu'en fait, nous sommes dans un processus et que si on prend, alors prenons le wahhabisme est un peu particulier. Le wahhabisme, je le considère comme une réaction au sein même de l'islam. Il faut se replonger dans la pensée du fondateur de cette secte, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est un personnage, comment dirais-je, quelque peu fanatique, messianique, intolérant. Extrêmement intolérant. D'ailleurs, son frère aura un propos très très dur à son endroit.
Soleiman, oui.
Tout à fait, en disant, alors je résume en substance ce qu'il dit, mais il interpelle la population en disant, mon Dieu, il faut l'arrêter. Il parle de son propre frère, hein, donc le fondateur du wahhabisme. Il est dangereux, il ne connaît rien à la religion, il est très inquiétant. C'est une bombe ambulante. Il n'utilise pas le terme bombe ambulante, mais c'est vraiment un cri de peur, d'inquiétude.
Il a même composé un ouvrage intitulé « Les foudres divines dans la réfutation du wahhabisme ».
Tout à fait. Donc c'est pour dire l'inquiétude qu'avait suscité Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mais Mohammed ibn Abdel Wahhab développe son discours en réaction à l'islam ottoman qui est, j'allais dire, plutôt, enfin permissif, c'est pas le terme, mais il y a une pléthore de courants, il y a du soufisme, il y a du chiisme, etc. Et pour lui, tout ça, c'est de l'hétérodoxie, ce sont des atteintes à l'islam pur, et surtout et fondamentalement. Ce que Mohamed Ibn Abdel Wahhab, et c'est en ce sens que son courant est une véritable secte inquiétante, voire dangereuse, c'est qu'il va être en rupture avec l'islam classique en disant, pour faire simple, je suis la vérité. Chose que même l'école Hanbalite, plutôt rigoriste par relativement aux autres écoles, n'a jamais fait. Les Hanbalites, les Malikites, les Hanafites, etc., et les Shafi'ites ont développé leur jurisprudence en affirmant avoir la meilleure interprétation, mais sans exclusif, sans rejeter les autres écoles. Contrairement à Mohamed Ibn Abdel Wahhab, qui va, lui, être dans un discours d'exclusion et presque d'hérésie, en ce sens où, effectivement, il innove en affirmant « je suis la vérité ». Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes contre moi. Il est un peu takfiriste. Bon,
le takfirisme, c'est le fait d'excommunier, en quelque sorte.
Tout à fait, tout à fait.
Autrui.
Tout à fait. Alors, il est vrai que il faudrait aujourd'hui nuancer entre le wahhabisme contemporain, qui est un néo-wahhabisme, et le wahhabisme primordial, originel de son fondateur, qui est clairement intolérant et extrême. Le wahhabisme contemporain est plus pragmatique, même s'il est porteur d'une immense intolérance et qui s'est diffusé malheureusement à travers tout le monde islamique. Mais ne chipotons pas. Le wahhabisme est un courant de l'islam hétérodoxe, extrême et inquiétant. Et il a fait le lit de tout le radicalisme dans le monde islamique depuis les années 60 jusqu'au peut-être attentat 2001 où là, peut-être l'Arabie Saoudite prend conscience qu'il y a matière à se poser des questions. Ensuite, je vous parlais de la confrérie des frères musulmans. Là, c'est pas le même processus. Nous sommes toujours dans une réaction, mais une réaction non pas au sein de l'islam, mais plutôt orientée contre l'extérieur, contre...
Et elle est d'ordre politique.
Elle est d'ordre politique. Autant Mohamed Ibn Abdel Wahhab était apolitique, il va s'allier avec le fameux émir arabe, un Saoud, et créer une...
Il s'allie au sens premier du terme, en lui donnant sa fille en épousaille.
En plus. Donc, il n'aspire pas à un poste politique de dirigeant. Mohamed Ibn Abdel Wahhab est un prédicateur politique. En ce sens, c'est quelqu'un de tout à fait sincère. Mais le paradis est pavé de bonnes intentions. Pardon, c'est l'enfer ?
Oui, mais les deux aussi. Bon, on parlera tout à l'heure de l'humour, mais bon.
Tout à fait. Alors, l'islamisme, en tout cas, celui des frères musulmans, qui est effectivement la matrice de l'islamisme contemporain, c'est une réaction à l'effondrement califal. On est dans une période où l'Empire ottoman s'effondre. Il y a une occupation, une pénétration physique de l'Europe, tant physique, culturelle, il y a une espèce d'hégémonie européenne qui est mal vécue par des pans de la population musulmane, parmi lesquels, bien évidemment, ces individus qui vont s'organiser en mouvement, et je pense à Hassan el-Banna, fondateur de la confrérie des frères musulmans. Donc, Hassan el-Banna, la théologie de Hassan el-Banna, elle est difficile à expliciter. Alors il a une tendance soufie, mais il est un politique.
Suis même pas sûr qu'on puisse parler d'une véritable théologie, puisque ses connaissances sont très falotes en matière théologique.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que autant Mohamed Ibn Abdel Wahhab a fondé une véritable théologie extrême, un hanbalisme poussé...
Rigoriste
poussé dans ses derniers retranchements. C'est pas le cas d'Albana, qui était un politique, mais c'est vrai que la nuance, lorsqu'on dit que Albana utilise, enfin les frères musulmans, en tout cas l'islamisme utilise l'islam à des fins politiques, dans l'esprit d'Albana, c'est « j'utilise la politique à des fins islamiques ». Mais ne chipotons pas, là encore, l'islamisme est une réaction face à une hégémonie européenne. Il suffit de lire les discours de Saïd Qutb, qui était extrêmement inquiet face à l'occidentalisation de son Égypte. Alors oui, bien évidemment, ce sont des réactions wahhabisme et islamisme qui vont dramatiquement aggraver le mal. Le mal était là, et les symptômes seront encore plus virulents, parce que l'islamisme va et le wahhabisme vont encore plus contribué à la vitrification de l'islam. La vitrification de l'islam, je le dis dans une publication, s'opère, pour faire simple, au XIIIe siècle. Grosso modo, les courants rationalistes comme les Mu'tazilites, etc., et d'autres perdent la bataille. Le monde musulman se recroqueville sur lui-même suite aux déconvenues qu'il subit. Je pense notamment à la chute, à la destruction de Bagdad, aux difficultés à l'est, à l'ouest, enfin dans le Maghreb, la Reconquista qui arrive. Bon, bref, le monde arabo-musulman sort de l'histoire, pour faire simple. Et il y a une fermeture théologique qui s'opère. C'est la victoire des traditionnistes, des gens du hadith, pour faire simple, de la glose. Et c'est le début, j'allais dire, le début de la fin pour le monde musulman.
Et on rate toute la séquence moment Descartes, moment Freud.
C'est ça.
Et ce qu'il y a entre les deux.
Voilà. Et alors vient, les Ottomans arrivent, récupèrent. Alors on dit que l'Empire Ottoman est le vieil malade de l'Europe, mais il va gérer les affaires du monde musulman. Mais sur le plan théologique, sur le plan de la science, etc., il est quand même aux abonnés absents. L'Europe, elle, progresse, c'est la Renaissance. Le monde ottoman stagne, autrement dit, il recule. Relativement à une Europe qui avance, c'est le début de la fin.
Et notamment tout au long du 19e siècle et en seconde partie du 19e siècle. Malik Bezou, vous préconisez, entre autres remèdes, au moins un triptyque dont le premier volet, c'est l'humour. Parce qu'il faut peut-être, en tout cas, avoir un peu de légèreté dans ces considérations religieuses, drastiques, austères, etc. Parce que pour vous, Dieu est humour.
C'est
Dieu est amour, mais Dieu est humour
Dieu
aussi.
Dieu est humour. Dieu est humour. Et aujourd'hui, l'islam, avec un grand I,
c'est la civilisation.
Tout à fait. A perdu ce sens de l'autodérision. Moi, ça a été une immense surprise lorsque j'ai découvert que le monde musulman sous les Abbassides, mais aussi sous l'Empire ottoman, mais si on reste sous les Abbassides, c'est vrai un petit peu avec les Omeyyades, mais sous les Abbassides, il y a une inflation d'œuvres d'écrits où l'on parle de Dieu, où l'on rit, mais c'est surtout, on le verra surtout avec sous les Ottomans. Mais il y a tout un patrimoine, d'écrits, d'œuvres où l'on plaisante, où l'on rit, et ceci a été complètement occulté. Moi, je l'ai découvert. Ça a été une révélation. Je savais pas qu'on pouvait rire à ce point. Alors, je pense à Omar Khayyam. Alors, je prononce mal son, mais que j'ai totalement découvert.
Oui. Omar Khayyam était un homme de génie, mathématicien, poète, mais on oublie cette part de l'humour qu'il a. Et bien entendu, à d'autres polygraphes, d'autres prosateurs, d'autres littérateurs. C'est finalement, c'est le gentilhomme, si j'ose dire, pour ne pas commettre beaucoup de paracronismes comme ça. Il y en avait une part d'humanisme, en tout cas les humanités en contexte islamique, laissaient une grande part à l'humour.
Oui, tout à fait. Il y avait, si on veut décrire typiquement cet humour musulman qui est une réalité, on parle d'humour juif, mais il y a un humour musulman qui a émergé. C'était une époque où l'islam avec un grand I avait confiance en lui, la civilisation islamique était en plein essor, était productrice, était partie prenante de l'histoire, était dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, elle est sortie de l'histoire. Et à cette époque-là, effectivement, on va trouver un humour qui va se décliner sous trois facettes. Un humour religieux d'essence plutôt populaire. Un humour que j'appelle bigotophobe, anticlérical, où là, effectivement, on va se moquer des tartuffes, des religieux qui en font trop, des gens qui, sous couvert comme ça de religiosité, en réalité, sont des gens qui sont plein de mensonges, de duplicité, etc. Donc il y a un véritable anticléricalisme, si je puis dire, qui va se développer. Omar Khayyam et d'autres vont contribuer par leur œuvre à ces écrits que j'appelle donc bigotophobes, qui sont par ailleurs extrêmement drôle. Je vais essayer de trouver un texte qui, moi, m'a énormément fait rire. Si vous me laissez 10 secondes.
Ah, mais je vous en prie. Moi, j'en ai un en tête, le temps que vous trouviez le vôtre. C'est en plus, ça fera la transition avec le deuxième volet qui, lorsqu'il s'agit des rapports charnels. C'est cet homme qui, je trouve pas le mot, voulant aborder une femme, il lui a dit, viens que je te goûte, pour que je puisse comparer avec ma propre épouse. Et elle qui lui rétorque, ah, tu devrais le demander à mon homme parce que il a déjà goûté la tienne.
Voilà le type d'humour qu'on pouvait trouver à cette époque, et on a du mal à croire que ça peut être écrit, etc. Aujourd'hui, tout ceci a disparu. Toute personne qui oserait écrire de telles choses, en tout cas parler de façon comme ça un peu irrévérencieuse de la religion, des représentants du culte, se verrait aussitôt censuré, sans parler des foudres qu'il déchaînerait chez les intégristes. Donc, jadis, dans une époque où effectivement l'islam avec un grand I, l'islam donc en tant que civilisation, avait confiance en lui, pouvait produire ce type de dérision, d'autodérision, aujourd'hui c'est même plus pensable. Et en ce sens, je vous rejoins complètement, l'islamisme et le wahhabisme ont extrêmement aggravé le mal. C'est plus possible aujourd'hui. L'islam est comme vitrifié. On le voit d'ailleurs avec les caricatures du prophète. Moi je dis d'ailleurs dans le livre...
C'était même une chance en réalité, faire des caricatures.
Mais bien sûr, il faut rire de la religion, il faut rire de Dieu. Dieu est drôle. La science aujourd'hui montre que le rire est profondément... on le sait, certes, le rire est le propre de l'homme, mais on sait aujourd'hui par la génétique, etc., que on comprend les processus du rire, j'allais dire la biologie du rire. C'est quelque chose, lorsqu'on est croyant, qui résulte de la miséricorde de Dieu. Rire à gorge déployée, certains bigots vous diront que c'est malvenu, que le rire est associé. Il l'associe d'ailleurs au rire des Mécois, qui à l'époque se moquaient des musulmans. Et cette extrapolation est tout à fait dramatique. Alors, tous les religieux n'ont pas cette vision, comment dirais-je, mortifère du rire. Mais moi, mon expérience personnelle m'incite à dire, lorsque je fréquentais à l'époque des mosquées, effectivement, on ne rit pas. On évite de rire. Et ça, c'est dramatique.
On a la mine patibulaire, on est maussade, on donne l'air triste. Oui. Ça rappelle la parole de Nietzsche. C'est vrai, mutatis mutandis, en voyant des gens sortir d'une messe à l'église, il a dit, à voir leur visage, on ne dirait pas que Dieu les a sauvés. Donc, du même ordre, quand on voit un peu les mines tristes de ces fidèles-là, on ne pense pas qu'ils sont en relation d'amour et de miséricorde avec Dieu.
Mais c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, il est impératif, moi j'appelle au jihad du rire, il faut retrouver un Dieu riant, si je puis dire.
Le djihad, vous le prenez dans son sens étymologique, c'est l'effort du rire.
Bien évidemment, l'effort, aller vers le rire, sortir de ce rapport culpabilisant, quasi névrotique à la transcendance. Et ça, c'est un chantier énorme. Aujourd'hui, trop de musulmanes, de musulmans englués dans une approche salafisante, orthodoxe, rigoriste de l'islam, contribuent à leur propre névrose. Et c'est terrible. Alors qu'on peut rire, Prenons l'exemple des caricatures. Oui, je l'avais déjà dit à l'époque, c'est une chance pour l'islam de France, en ce sens que rire de l'islam, pardon, se moquer, éventuellement même du prophète. Même si effectivement certains dessins, certaines caricatures sont grossières et parfois sont clairement mal intentionnées, surtout lorsqu'elles elles émanent de mouvements d'extrême droite. Et là, on sait que l'objectif n'est pas tant de faire rire, mais plutôt de faire mal aux disciples de cette religion. Mais de façon générale, rire de l'islam en France est une excellente chose parce que ça contribue à normaliser l'islam. Si l'islam prétend être une religion qui s'intègre dans notre pays, alors forcément, elle va subir ce rouleau compresseur de l'anticléricalisme qui est une caractéristique française depuis Voltaire. Le catholicisme a vécu la moquerie, inutile de revenir dessus, tant c'est évident et tant c'est massif. Donc l'islam ne peut pas échapper à la moquerie, à la légèreté, à l'irrévérence. Et ça participe au contraire de sa banalisation. Aujourd'hui, ce qui rend l'islam si sensible, c'est justement qu'on a du mal à rire de lui, entre autres. Il faut donc rire abondamment de Dieu, des prophètes.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'essayiste Malik Bezou et nous parlons avec lui comme un intellectuel engagé dans la réforme de l'islam, de la pensée islamique, et il n'y a de réforme que réforme théologique, vous nous dites Malik Bezou. Deuxième volet de votre triptyque, ce sont les rapports charnels entre les hommes et les femmes. En tout cas, les orientations sexuelles ne doivent pas être un tabou. Et vous pensez que, là aussi, il y a une régression terrible par rapport à ce qui a pu se passer à travers l'histoire, d'une part, et d'autre part, cette névrose concernant ce sujet doit être aussi guérie. Il faut la soigner.
Alors, c'est un sujet effectivement sensible, je dirais même tabou, celui de la sexualité.
Auquel cas il faut le transgresser.
Il faut le transgresser. Et pour ce faire, là encore, il faut revenir donc aux premières jurisprudences qui ont été émises dans les premiers temps de l'islam. Et on va se rendre compte si, parce qu'effectivement mon travail concerne l'homosexualité masculine, le lesbianisme, et la masturbation, qui sont effectivement des thèmes plutôt sensibles, surtout en terre d'islam. Pourtant, et ça a été une vraie découverte, si on considère l'homosexualité, la première chose qu'il faut dire, et ça c'est le signal fort, il n'existe dans le Coran aucun châtiment prescrit, donc par le texte lui-même, vis-à-vis des homosexuels. Ces châtiments ont été inventés, extrapolés, par les esprits des
jurisconsultes.
Tout à fait.
Le passage coranique parle de l'œuvre de Lot,
oui,
qui est considérée comme une abomination, reprenant ce qu'il y a dans les écrits vétérotestamentaires.
Et exactement. Et alors, si on veut être simple, mais tout en étant très fidèle à la réalité, l'école malikite, enfin, en tout cas, l'imam Malik, l'école Hanbalite et l'école Shafirite vont avoir une vision dure, qu'on pourrait aujourd'hui clairement décrire comme étant homophobe, radicale, parce qu'elle préconise, alors que le Coran ne le demande pas, la mise à mort de l'homosexuel. C'est une extrapolation, c'est une invention qui pose vraiment question. Maintenant, les Hanafites, ainsi que le courant d'Ibn Hazm, qui est un immense théologien de Cordoue, andalou, de mémoire du XIe siècle, je crois, qui lui, Ibn Hazm, dit « Il n'y a rien dans le Coran qui prévoit cette peine ». Et l'imam Hanif rajoute…
Parce qu'il est zahirite, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne voit que le texte obvi,
apparent. Exactement. Il est dans cette école-là, donc le texte apparent, il n'est pas un littéraliste. C'est un homme extrêmement fin. On lui doit ce chef-d'œuvre, L'écolier de la Colombe.
Magnifique. De l'amant et de l'aimer.
Exactement. Où il parlera d'ailleurs, où il décrira les amours contrariés de deux homosexuels, d'un musulman qui tombe amoureux, follement amoureux d'un chrétien. On imagine mal aujourd'hui un théologien d'Al-Azhar écrire les amours contrariés de deux homosexuels. C'est dire, lorsqu'on prend ces indicateurs-là, ces récits-là, la différence, enfin l'état de crispation
c'est
du monde.
C'est pour ça que je vous dis qu'on parle d'une régression même oui. Par rapport à la version standard.
Tout à fait, tout à fait. Mais n'empêche que Ibn Hazm et l'école hanéfite considèrent qu'il n'y a absolument pas lieu de mettre à mort les homosexuels. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, en Iran et dans d'autres pays, les homosexuels sont condamnés à mort.
Et d'une manière atroce. D'ailleurs, la monstruosité qu'est Daesh, c'était de les jeter du haut d'un immeuble, parce que cette invention, par rapport au texte qui n'existe pas, c'était de les jeter du haut d'une falaise. Oui. Et comme à Raqqa, il n'y avait pas de falaise, il y avait donc ces immeubles assez hauts.
Tout à fait.
Et on les jetait par-dessus ces immeubles-là.
Et exactement. En réalité, Daesh n'a fait qu'appliquer certaines sentences élaborées par des jurisconsultes malikites. Et donc, ils ont été dans un zèle extrême, mais malheureusement, qu'ils justifient en s'appuyant sur des exégèses de l'islam classique.
Et Malik est mort en 796.
Voilà. Alors, donc il faut impérativement changer notre regard, d'autant plus que Ibn Hazm lui-même dit que le peuple, ce que Lot, Dieu a condamné le peuple de Lot pour un ensemble de faits, l'homosexualité pourrait être un élément, mais pas l'élément fondamental. L'inhospitalier, le viol des voyageurs, l'athéisme, l'idolâtrie, etc. L'orgie éventuellement, l'homosexualité faisant partie des fautes, mais c'est pas la faute, majeure que le texte veut mettre en évidence et que malheureusement les lectures aujourd'hui intégristes, fondamentalistes, littéralistes et complètement dévoyées mettent plutôt en évidence. Et là, j'ai fait un travail justement de recherche, j'allais dire scientifique, pour voir aujourd'hui où on en est par rapport à la biologie de l'homosexualité. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'homosexualité, et toutes les études le montrent, elle est d'abord naturelle. Ces études montrent clairement que la dimension biologique est très importante dans l'apparition de la tendance homosexuelle chez les individus. Il y a aussi, bien évidemment, des considérations environnementales, psychologiques, etc. Mais clairement, la question qu'il faut se poser, c'est Dieu étant juste dans son essence, par définition. Comment se fait-il qu'il insuffle le désir homosexuel chez son serviteur, tout en le condamnant par ailleurs ? Soit Dieu est injuste, auquel cas, effectivement, ça n'a strictement aucun sens. L'islam s'effondre, la théologie islamique s'effondre, parce que Dieu est juste, c'est un attribut de Dieu d'ailleurs. Soit, tout simplement, notre interprétation de la chose homosexuelle est erronée. Je crois que c'est notre interprétation qui est erronée.
Alors, comme nous nous approchons du terme de l'émission, et je vous pose ma question sur cette idée de justice de Dieu, dans la théodicée, pour utiliser le terme approprié, c'est comment régler ce problème de la justice divine et aussi la présence du mal. Pourquoi a-t-il donc condamné l'ensemble de la population du village du temps de Lot, y compris avec des enfants innocents? C'est aussi une réflexion à mener de nos jours quant à la miséricorde divine. La transition, je la fais avec votre dernier volet du triptyque, « Dieu se meurt, sauvons-le ». Est-ce que l'omnipotence divine a besoin que les humains le sauvent?
Effectivement, vous aurez compris que ce titre-là est un petit clin d'œil à Nietzsche.
Bien sûr.
Je suis en quelque sorte le Nietzsche musulman. Bon, c'est prétentieux, mais...
Il faut bien commencer.
Oui, et puis en plus, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis si je dis que je suis le Nietzsche musulman. Cela dit...
Vous savez qu'il y avait quelqu'un qui s'est passé pour le Schopenhauer musulman.
Non, ben voilà. Mais il y a quand même quelque chose de fondamental. cette idée que Dieu, que Allah ou Dieu se meurt à nouveau. Nietzsche avait dit que Dieu, le Dieu d'Occident se meurt. Je dis que le Dieu d'Orient, Allah, risque de connaître le même sort. Parce qu'aujourd'hui, trois forces concourent à l'effacement du reflet de Dieu sur Terre. Ces trois forces sont les suivantes. Tout d'abord, le despotisme politique qui règne dans le monde arabo-musulman, qui empêche l'émergence de réformistes, de penseurs. Le monde arabo-musulman a besoin d'espaces de liberté, d'espaces de libre parole, où les débats pourraient s'organiser, où les confrontations d'idées auraient lieu. Ce n'est pas le cas. Or, sans espace de liberté, aucune chance d'avoir effectivement une réflexion, des débats contradictoires qui sont porteurs justement d'une réforme. Parce qu'il dit réforme, dit débat. Mais il n'y a pas de débat. Et ça, c'est dramatique. Le despotisme, on a parlé tout à l'heure d'islamisme qui aggrave, et le wahhabisme qui sont bien évidemment des amplificateurs du mal. Mais le despotisme est joue de la même façon, contribue exactement à cette destruction de la religion musulmane, dans le sens où il étouffe, il empêche l'émergence d'une pensée réformiste. Je pense à Mahmoud Mohamed Taha, qui est une espèce de maître spirituel pour moi. Il a été
injustement exécuté.
Tout à fait.
En 1985.
Exactement, à l'âge de 76 ans. Il a été considéré comme hérétique, parce que l'université Al-Azhar est tombée sur ses textes et a pointé du doigt sa tendance hérétique. L'Arabie Saoudite s'en est mêlée et a considéré qu'effectivement c'est un hérétique et il doit être condamné comme tel, c'est-à-dire condamné à mort. Et tout ceci est envoyé à la justice soudanaise qui se saisit du dossier, qui l'arrête, il est condamné et donc pendu en 1985. Nous en sommes là. Donc, tout ça.
Il n'a rien dit d'autre que les versets mécois sont l'essence et la mère du livre coranique. En revanche, les versets médinois sont de portée plutôt temporelle. Il faut savoir les relativiser à leur contexte médinois.
Vous avez totalement résumé la pensée de Mahmoud Mohamed Taha. Et donc, tout ça pour dire que le despotisme est un fléau, qu'il est un frein majeur à la réforme et au renouveau de la pensée musulmane. Premier donc frein, donc despotisme, autoritarisme et en filigrane l'institutionnalisation de l'islam, qui est religion d'État, mais l'institutionnalisation de l'islam, on ne le dit pas, c'est aussi conséquemment la vitrification de l'islam. Donc il faut finir avec ça. Donc ça c'est le premier pôle de désintégration de la religion musulmane. Despotisme, étatisation, institutionnalisation de la religion musulmane. Deuxième force concourant à la destruction de la religion musulmane, c'est sa politisation par les courants islamistes. C'est une catastrophe.
Oui.
Pas besoin de beaucoup s'étendre là-dessus, c'est une évidence.
Et je vous suggère que si vous voulez bien, vous reviendriez nous parler de tout cela, parce que nous avons atteint la limite de notre émission ensemble.
Avec plaisir.
Merci infiniment. Merci Malik Bezou de nous avoir éclairé par vos propos sur la nécessité de la réforme, et notamment la réforme théologique de la pensée islamique. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Guillaume Ledu et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
Thank you.